Le Club des idées sur France Inter, en compagnie d'Alexis Brézé, directeur des rédactions du Figaro, de Laurent Geoffrin, directeur de Libération, et de Laurence Luret. Comment est-ce que je vous présente,
directrice de rien.
Bonjour.
Bonjour.
France Inter, bonjour.
J'essaye de se diriger elle-même.
Vous avez du mal en tout cas. La double démocratie, c'est donc le titre du livre dont vous avez choisi de parler, Laurence.
Oui, Patricia, dans un peu plus d'un mois, le traité de Rome qui a fondé l'Europe avec ses promesses de paix et de prospérité aura 60 ans, 60e anniversaire donc, mais pas sûr que cette date soit une fête. Montée des populismes, défiance des peuples, Brexit, l'Europe semble impuissante à s'arracher à son marasme. Alors, refusant l'alternative entre le fédéralisme ou la mort, les auteurs de cet essai, l'économiste Michel Aglietta et le politiste Nicolas Leron, plaident pour un nouvel acte fondateur fort. Après le marché commun, après la monnaie unique, il faut un budget européen, disent-ils, condition à l'avènement d'une puissance publique européenne, d'une démocratie européenne digne de ce nom. Alexis Brézé, le budget comme grand négociateur historique et engagée. Vous en avez pensé quoi?
D'abord, je trouve que c'est un livre qui est vraiment intéressant. C'est un livre, vous l'avez dit, d'un économiste et puis de quelqu'un qui est un spécialiste du droit européen et qui ont compris que l'économie et le droit ne suffisaient pas à résoudre les problèmes de l'Europe. C'est déjà quelque chose. Deuxième chose qui me paraît très intéressante, c'est que ce sont des Européens convaincus, mais qui ne sont pas des Européens et qui partent de ce qui me paraît une réalité, c'est la crise de l'Europe. Ils partent du Brexit et disent il y a quelque chose qui ne va pas, et ce quelque chose a à voir avec les peuples, avec la crise de légitimité, de la démocratie européenne. Ils parlent de déni de démocratie quand ils parlent d'Europe. Donc je pense que déjà il y a un point de départ qui est très intéressant. Il y a des notations tout à fait intéressantes sur des choses qui ne marchent pas, et notamment cet euro qui, sans politique derrière, ne peut pas fonctionner. Et un deuxième point sur lequel ils ont des pages très fortes, c'est la limite de l'intégration par le droit. Sous cette façon, cette Europe de la réglementation, cette Europe qui finalement apparaît tatillonne, qui est l'idée de tout unifier par le droit et par les règles et qui ne fonctionne pas. Donc ça, le bilan critique, moi, me paraît très juste. Ce qui peut me paraître moins fort et insuffisant, ce sont les solutions qu'ils proposent.
Laurent Geoffrin.
Moi, je trouve que le diagnostic est juste, mais les solutions aussi.
Voilà. Allons-y, alors.
Parce que le diagnostic, Alexis l'a dit, c'est-à-dire qu'il y a un grand marché et il n'y a pas d'instance politique. Il y a des institutions, hein, il y a un Parlement, etc. Mais il n'y a pas de vie politique européenne. On ne voit pas les débats à l'échelle européenne, on ne les connaît pas bien. Les leaders de Bruxelles, on ne sait pas qui c'est toujours des gens anonymes. Ou mal connu en tout cas, et donc il propose que en démocratie, la vie politique, l'origine, ça a été le contrôle des dépenses publiques. Donc il propose qu'il y ait des dépenses publiques à l'échelle européenne, non pas pour se substituer à l'instance nationale, mais pour ajouter un niveau où on s'occuperait d'investissements communs dans des domaines. Alors, il y a des exemples comme Airbus et des choses comme ça qu'on peut prendre. Ensuite, pour essayer de les reproduire dans d'autres secteurs, il y a des enjeux qui sont internationaux, on le sait bien, les questions environnementales, par exemple, les questions d'énergie ou la défense, tout ça, c'est international, et l'instance politique européenne ne sait pas s'en saisir. Donc, il propose qu'il y ait un budget qui permette de financer des investissements. C'est pas un budget avec des fonctionnaires, hein, c'est un budget où on investit dans des projets. Et ça me paraît juste, ça me paraît effectivement la seule manière de s'en sortir. Puisque autrement, aujourd'hui, on a une Europe du droit, une Europe du marché. Et puis, les peuples ne comprennent rien parce qu'ils ont l'impression qu'on décide tout à leur place.
Alexis Brézé, pas tout à fait d'accord.
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est pas faux. Mais
qu'est-ce qui n'est pas faux?
Cette idée que si, pour sauver l'Europe, il faut une Europe qui ait des projets menés en commun par les différents pays, des politiques publiques, que ce s'agisse des migrants, de l'environnement, etc. C'est pas faux. Sauf que ça suppose le problème résolu. C'est-à-dire que pour répondre à la défiance des peuples, ils disent on va faire des politiques. Mais pour faire des politiques, il faut la confiance des peuples. C'est ça le problème. On dit il faut faire une politique depuis combien de temps? Et on parle de politique sur les migrants. Est-ce que les peuples européens sont d'accord sur la façon de gérer les migrants? On a bien vu qu'entre l'Allemagne et la France, il n'y avait pas d'accord.
Ils sont maintenant d'accord pour établir des frontières européennes. C'est difficile à faire.
Non, mais on voit bien que l'Allemagne et la France n'ont pas aujourd'hui la même politique. Ne parlons pas de la Hongrie, de la Pologne et de l'Espagne et du Portugal. Donc déjà ça ne marche pas parce que le problème, il est dans l'adhésion des peuples à se sentir élément d'un tout. Mais on pourrait prendre
mais si vous dégagez des projets, comment dire, dignes d'adhésion, projets économiques qui permettent de créer des emplois et de aider la technologie européenne, les populations peuvent adhérer
mais en fait,
facilement
dès,
quand même.
Dès que vous
pourquoi
entrez dans un mécanisme budgétaire, ça suppose que les peuples consentent d'abord à un nouvel impôt.
Oui, pour on peut transférer une partie impôt, des impôts.
Et ensuite, qu'ils acceptent la loi de la majorité, c'est-à-dire que les dépenses, que les politiques favorisent telle activité.
Oui, mais ça crée une vie politique européenne.
Certes, mais aujourd'hui, les peuples n'ont pas ce sentiment. Donc, on peut leur dire, une politique décidée par l'Allemagne ne correspond pas à ce que souhaitent les Portugais.
Mais c'est la poule et l'œuf. Alors, on n'a pas l'un, on n'a pas l'autre.
Le problème, c'est l'adhésion des peuples. Et on ne créera pas l'adhésion des peuples par des mécanismes institutionnels et budgétaires. Franchement, je le crois pas.
Sauf si cette définition de projet commun permet d'avoir une économie plus dynamique.
Un des éléments centraux dans la démonstration de nos deux auteurs, c'est de dire il faut qu'on puisse mutualiser les dettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très concrètement que l'Allemagne garantisse les dettes de la Grèce, du Portugal, de l'Espagne, de la France.
Pas les dettes actuelles, les dettes futures.
Eh bien oui, même celles-là. Les Allemands, le peuple allemand ne voit pas pourquoi, parce qu'il ne se sent pas élément d'un tout, il ne voit pas pourquoi il paierait pour les Portugais.
C'est comme ça. Le livre repose sur l'hypothèse qu'il y a malgré tout quand même une volonté de construire quelque chose en commun.
Alors, il propose des voies pour le faire. Que les peuples ne se sentent au fond pas européens.
Il dit
les y aider, on va leur faire des mécaniques budgétaires. Mais ça marche pas.
Non, mais si on considère que les peuples n'en veulent
pas,
c'est fini.
Il insiste quand même sur le fait que les Européens, la plupart, sont attachés à cette idée d'Europe.
Dès qu'on entre dans un mécanisme concret, dès qu'on entre dans une politique, à ce moment-là, les intérêts nationaux reprennent le dessus parce que l'espagnol ne se sent pas allemand.
Oui, ça suppose une négociation entre deux sensibilités.
Aujourd'hui, le peuple, par exemple, allemand, qui a des retraité, a besoin de mettre de l'argent de côté pour ses retraites, ne veut pas payer pour les dépenses des jeunes portugais ou espagnols.
Oui, mais est-ce que le peuple allemand est d'accord pour défaire ce qui a été construit depuis 40 ans et se retrouver avec une Europe éclatée, avec des nations
chaque fois qu'on interroge un peuple sur l'Europe, on a parlé du Brexit, mais on aurait pu parler de l'Irlande, du Danemark, des Suédois, des Hollandais, des Grecs, des Français. Chaque fois qu'on interroge un peuple, qu'on fait un référendum sur l'Europe, chaque fois la réponse est non.
Il n'y a plus qu'à tirer la chaîne, il n'y a rien à faire.
Il faut pas nier les problèmes pour les résoudre.
Je crains que votre pessimisme soit lié au fait que vous n'êtes pas très favorable finalement à cette Europe.
Je suis pas favorable à cette Europe qui existe. Je pense que ce que Jean Monnet appelait la course sans retour vers les États-Unis d'Europe, ça ne marchera pas. Il faut une fois pour toutes
renoncer. Mais c'est pas ce qu'il propose du tout.
Ils ne choisissent pas le fédéralisme.
Ils disent pas il faut tout mettre au niveau européen et ça n'est même pas une perspective. Ils disent il faut un niveau supplémentaire démocratique.
Ils sont plutôt dans la logique.
Niveau supplémentaire européen démocratique, avec un débat, avec des discussions politiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait une politique plutôt de relance ou plutôt d'austérité, etc. Et les hommes politiques européens se battent sur ces questions. Après, on trouve un compromis, on tranche, et après, il y a une politique commune.
Ils s'inscrivent finalement.
Si on considère que ça tout doit rester au niveau national, évidemment, on dit, de toute façon, ça ne marchera jamais.
Non,
c'est même pas la peine d'essayer.
Alors, une question rapide pour vous deux.
De toute façon, les peuples n'en veulent pas, donc c'est pas la peine de se fatiguer.
Ils veulent autre chose. Ils veulent moins de commissions, ils veulent moins de directives, ils veulent moins d'angélisme multiculturel, ils veulent plus de subsidiarité, ils veulent plus de conseils européens.
Mais ce n'est pas contradictoire avec le fait
Delors, un jour, où il était en veine d'honnêteté, a dit l'Europe, le seul moyen de la faire, c'est le despotisme doux et éclairé. Il a dit, les peuples n'en ont pas envie, et par le despotisme doux et éclairé de la Commission des institutions européennes, on va y arriver. Eh bien aujourd'hui, les peuples se révoltent contre le despotisme futile, doux et éclairé.
Je vous rappelle que nous parlons du livre de Michel Alietta et Nicolas Leron, La double démocratie, une Europe politique pour la croissance. Laurence Luret, vous avez lu le livre également, j'imagine.
Oui, alors plus le temps pour une dernière question. Moi je dirais que c'est un livre très intéressant. Surtout, ne vous laissez pas décourager par son aspect un peu austère, parfois technique. Pour les auteurs, l'économiste Michel Alietta et le politiste Nicolas Leron, nous avons un besoin absolu, disent-ils, d'Europe, que le Brexit et l'élection de Trump rendent encore plus urgent. Il nous faut donc retrouver la dimension historique du projet européen. Et ça passe par un budget commun. Oui, ça peut surprendre. C'est la grande négociation historique à engager, écrivent-ils, susceptible de rendre son souffle démocratique à l'Europe et d'en faire une puissance publique. Loin d'être un livre d'économie, cet essai pose la démocratie comme point de départ et d'arrivée de toute réflexion sur l'Europe. Et c'est ça qui est passionnant, c'est une critique de l'analyse purement économique dominante de la crise de la zone euro. Les auteurs montrent, et c'est la bonne surprise, comment la monnaie, la dette et le budget doivent être intimement liés à la politique, rendant ainsi aux citoyens le pouvoir de se prononcer sur les grandes options économiques et donc sur leurs propres conditions de vie. Lisez les passages très instructifs sur les failles structurelles de l'Europe, la manière dont le droit européen horizontal basé sur la libre circulation mondialisation et la libre concurrence, s'oppose au droit vertical de chaque nation et finit par affaiblir les démocraties et le processus même de l'intégration européenne. Jetez un œil sur les solutions proposées, vous avez entendu, elles font débat. Et si vous faites partie des Européens critiques vis-à-vis de l'Europe, mais pour autant pas prêts à la quitter, ce livre est pour vous. Reste néanmoins une question, un budget commun suffira-t-il à raviver les braises du rêve européen, bref, à faire espérer les peuples? L'histoire nous le dira.
C'est publié aux éditions du Seuil.
Aux éditions du Seuil, avec ce sous-titre, une Europe politique pour la croissance.
Merci Laurent Geoffrin, merci Alexis Brézé, merci Laurence Duret et à la semaine prochaine.